Et Claude, vous nous parlez d'urgence.
Un sentiment salvateur que le géant coréen Samsung au profit en berne veut inculquer à ses 300 000 employés sur Terre. Et pour cela, me disent les échos, demande à ses cadres de passer à la semaine de 6 jours. Les managers peuvent venir travailler le samedi ou le dimanche comme ils veulent, mais ils devront passer cette journée à analyser les risques qui guettent l'entreprise. Ils ne gagneront pas plus d'argent que cela, nos cadres, car leur contrat de travail les assimile à des employeurs. Je lis aussi que Samsung n'est pas le seul conglomérat de Corée à vouloir ces temps-ci resserrer les cordes de la harpe. Je cite ici un patron coréen dont l'urgence n'a pas éradiqué le sentiment poétique. Dans les échos encore, j'apprends que le géant allemand de la chimie BASF, 110 000 salariés, a inauguré à Ludwigshafen deux fours électriques qui, en montant à 800 degrés, vont craquer proprement les hydrocarbures afin de fabriquer du plastique. On appelle ça le vapocraquage, jusqu'ici terrible pollueur, car consommateur de gaz. Ce n'est qu'un début, BASF veut investir 4 milliards, puis 10 milliards encore, pour réaliser une révolution verte qui prendra 20 ans. Au présent, les bénéfices du groupe ont chuté de 45% l'an dernier. Pendant ce temps, l'opinion nous guide dans les différentes teintes de l'hydrogène, énergie d'avenir dont on débat à Rotterdam. Alors j'apprends que l'hydrogène vert, qui est propre, n'est pas compétitif car cher à produire, tandis que l'hydrogène gris, meilleur marché, pollue car on le produit à partir de gaz naturel. Mais entre les deux, existe un hydrogène bleu. Allez, lisez, l'opinion vous le racontera mieux que moi pour nous guider dans une énergie que l'on teste, énergie de transition, comme l'époque où nous vivons. Pendant ce temps, l'humanité juge les belles espérances de l'aviation qui se veut à la fois sobre et prospère, car parie sur un doublement du trafic mondial d'ici 2050 qui sera porté par des avions volant au biocarburant. C'est un grand projet français porté par le président Macron. Le biocarburant, ça se fabrique avec de la biomasse, comprenez du bois. Alors l'humanité mobilise des défenseurs des forêts qui parlent de mégalomanie. La transition est obscure. Le Monde, lui, nous décrit comment à petits pas sortent des limbes les ordinateurs quantiques qui vont nous faire changer de dimension. On attend des prototypes français pour 2032. Je lis comment patiemment on apprend l'intelligence au qubit, ces composants du calcul quantique qui vont vite mais parfois se trompent et sont décohérents. Il y a des merveilles de mots dans cet article. J'apprends que le quantique naît de la possibilité pour un électron d'être dans deux états à la fois, comme si une balle passait par deux trous dans un mur en même temps. Et cette caractéristique est utile à l'explication de la couleur du ciel. Je suis moi-même en deux états, essayant de comprendre et rêvant à ce que je ne comprends pas. Enfin, dans le courrier Picard, qui, comme beaucoup de journaux, décrit les fatalités qui guettent viticulteurs et arboriculteurs quand le réchauffement climatique précipite les floraisons, mais les plantes hâtives meurent de rencontrer les gels de printemps, j'apprends que dans l'Oise, des paysans prient pour que Dieu protège les cultures. Est-ce encore notre transition ?
On parle aussi d'université.
Aux États-Unis, à Columbia, New York d'abord, où depuis plusieurs jours, des étudiants manifestent en soutien à la Palestine. Et sur les sites du Figaro et du Parisien, vous lisez comment ces manifestations ont dérapé dans l'antisémitisme, certains protestataires demandant entre autres aux étudiants juifs de retourner en Pologne. Mais parmi les manifestants pro-palestiniens, on trouve aussi des jeunes juifs. Tout ceci est raconté plus en détail sur le site du New York Times. Hier, alors qu'elle a débuté la fête juive de Pâques, Columbia est passée en mode distanciel. On suit les cours à la maison en attendant que revienne le calme, s'il revient. Vous lirez dans le Figaro la mort d'un Palestinien de Cisjordanie tué par des colons qui ont rasié son village après la disparition d'un jeune berger israélien. Il s'appelait Jihad Abu Alia, il avait 25 ans. Il laisse une veuve de 20 ans, Abrar, qui dit qu'avec son amoureux, il ne parlait que de la vie. Vous lirez sur le site du journaliste israélien Haaretz l'interview fascinante d'un ancien responsable des services de renseignement des prisons israéliennes, Yuval Bitton, qui au commencement était dentiste dans ces centres de détention et savait reconnaître les militants du Hamas à leurs dents, des dents impeccables, exemptes de caries, car leurs propriétaires menaient des vies d'ascètes islamistes, contrairement à leurs rivaux ennemis du Fatah. Bitton a souvent parlé avec celui qui allait devenir l'organisateur des massacres du 7 octobre dernier, Yahya Sinwar. Il lui demandait « Ça vaut la peine de faire tuer 10 000 innocents pour libérer 100 prisonniers ? Même 100 000, ça vaut la peine. » Sur le site du Monde, lisez quatre jeunes ukrainiennes venues de Mariupol, aujourd'hui cadettes, élèves de l'Académie ukrainienne de marine à Odessa. Leurs visages ont la pureté de l'adolescence, mais leurs yeux disent nos enfers. Dans la Croix, lisez comment au Sahel, au Niger, au Burkina Faso, au Mali, loin des journalistes désormais empêchés de travailler, on souffre, on meurt des coups d'État, des raids militaires. Mais quand parle-t-on de vie ?
Et on parle enfin d'une chapelle.
Dont il ne reste, Nicolas, que ruine à Saint-Fort-sur-le-Nez, nous dit la Charente Libre. Mais c'est en ce lieu qu'on appelait chapelle de la Norville que serait apparu le cognac, né de la surprise d'un moine, découvrant après des siècles deux tonneaux d'eau de vie oubliés, offerts jadis par un templier. L'eau de vie avait viré au brun. C'est peut-être une légende, peut-être de l'histoire, une association en quête, mais voulez-vous savoir ou préférez-vous, comme pour le cantique, rêver ? On raconte aussi que le cognac est né d'un chevalier nommé Jacques de la Croix Marron, qui dans son sommeil avait résisté au diable qui voulait lui voler son âme, mais cette âme était si pure que Satan avait dû la faire bouillir deux fois. À son réveil, pour mon bonheur, le chevalier avait imité le démon. Enfin, dans Libération, allez lire les souvenirs d'un gentleman septuagénaire auvergnat, Jean-Yves Labat de Rossi, qui jadis était rocker, nommé Frog, et qui, d'un pari de défonce, en était allé voir un démon de son temps, le dictateur ougandais Idi Amin Dada, pour le convaincre de marier son accordéon, où il était accordéoniste, le dictateur, à son art. Il y survécut. Notre ami Arnaud Vivian nous a raconté cette histoire il y a quelques temps. Cliquez sur notre site, lisez Libé. Bonheur à vous.
Merci Claude pour cette revue de presse.